Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue dans votre émission Sortez comme tous les jours. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous sommes avec Romain Taïfé, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes responsable de la Maison du Souvenir à Maillé.
Oui, c'est bien ça.
Eh bien, alors un petit mot, alors en collaboration aussi d'ailleurs avec l'association pour le souvenir de Maillé.
Oui, voilà, c'est l'association pour le souvenir de Maillé qui gère la Maison du Souvenir depuis maintenant un peu plus d'un an. Hein. Je peux vous en dire quelques mots. Hein. C'est une association qui a été créée en 1995 à l'initiative des survivants du massacre qui, grâce notamment aux archives départementales d'Indre-et-Loire, ont pris conscience de la nécessité de témoigner, de la nécessité de raconter ce qu'ils avaient vécu pour éviter que ce drame qui était déjà plongé dans l'oubli ne sombre définitivement. Ils étaient les derniers témoins à pouvoir raconter ce massacre du 25 août 1944 et s'ils n'avaient pas pris conscience de la nécessité de le faire au milieu des années 90, très probablement c'est des pages entières d'histoire qui n'auraient jamais été écrites. Hein.
Donc là, ces gens-là ont peut-être été enfants, tout jeunes, et ont vécu ce massacre dans l'association.
Oui, pour la plupart, en tout cas dans les premiers adhérents de cette association, c'était beaucoup de personnes qui avaient entre 5 et 15 ans, 1944, avec certains plus âgés. Le doyen, un des doyens avait 27 ans au moment des faits, donc était encore tout à fait était capable vraiment de raconter le contexte, la vie à Maillé, cette vie à Maillé pendant l'occupation. Et la plupart ont perdu tout ou partie de leur famille, étaient présents dans le bourg au moment du massacre et ont pu échanger. Ils nous le disent souvent, c'est toujours touchant. Ils disent souvent que au moment de leur première réunion d'association, lorsqu'ils ont mis en commun leur histoire, ils se sont aperçus que pendant 60 ans, 50 ans, ils s'étaient côtoyés, mais que chacun avait son histoire et qu'il ne connaissait même pas celle de son voisin. On parlait de tout sauf du massacre de Maillé dans le bourg pendant les années qui ont suivi le drame.
Comment vous expliquez cette longue période où c'est resté secret, quelque sorte?
Plutôt que le mot secret, je sais que certains témoins n'aiment pas qu'on utilise ce mot, mais je dirais plutôt un tabou. Imaginez que évoquer le drame dans le bourg, ça veut dire tirer les larmes. Je prends l'exemple d'un témoin qui dit ben moi, donc, dès que j'en parlais avec ma grand-mère, elle fondait en larmes. J'ai posé une fois la question, j'ai posé deux fois la question. Après, j'ai arrêté, j'avais pas envie de l'avoir pleuré. Voilà, ils disent tous que parfois ils évoquaient la conversation pouvait aller sur le sujet du massacre et ils parlaient pendant quelques secondes, quelques dizaines de secondes du drame. Et puis spontanément, la conversation s'arrêtait parce qu'on n'avait pas envie d'en parler. C'était beaucoup trop dur. Imaginez dans une famille déjà, quand il y a un deuil, quand il y a une maladie, on a parfois du mal à en parler. Mais là, vous mettez ça à l'échelle de tout un village avec vraiment une chape de plomb qui va tomber sur le bourg. On parle d'avant, on parle d'après, mais on ne parle pas de cette journée-là du 25 août 44.
On en reparlera plus en détail, mais est-ce que du coup des poursuites en quelque sorte pénales face au massacre se sont instaurées avant les années 90, ou c'est là où vraiment ça c'est revenu en fait?
Alors, il y a eu un travail judiciaire immédiatement après le massacre, pendant cette période d'oubli, de silence, de tabou, des poursuites judiciaires qui n'ont pas amené à des choses très sérieuses, puisque les recherches ont été bâclées. Bon, faut aussi imaginer l'état d'esprit des gendarmes de Sainte-Marthe-de-Touraine, la petite ville voisine, qui arrive le 26 août et qui constate une scène de crime qui fait plusieurs kilomètres carrés, pas une ou deux victimes, mais 124, des gens qu'ils connaissent, les gens connaissent les habitants de Maillé, donc eux aussi ont été saisis par l'émotion. Ils ont fait, voilà, il y a eu des grosses lacunes dès le début de l'enquête, et puis ensuite des enquêteurs qui, à mon sens, n'ont pas fait un travail très sérieux, ce qui a conduit le travail judiciaire, les enquêtes dans l'impasse, et qui n'a permis d'obtenir qu'une condamnation à mort par contumace au tribunal de Bordeaux. Condamnation dont d'ailleurs la population de Maillé n'a pas eu connaissance avant les années 90.
D'accord. Est-ce que vous avez des exemples de personnes, enfin, qui vous ont raconté un petit peu comment elles ont vécu ça dans l'association?
Oui, beaucoup. On a des témoins. Alors moins maintenant parce qu'ils sont âgés, c'est de plus en plus difficile pour eux de venir à la Maison du Souvenir. Mais c'est vrai que les premières années après mon arrivée, régulièrement, on avait des témoins qui venaient à la Maison du Souvenir et spontanément, ils se mettaient à nous raconter leur histoire. Je pense à M. Chedozo, je pense à Christiane Truffier-Blanc, à M. Martin, le président de l'association, Michel Gandard, voilà, chacun d'eux venait et nous faisait part de son massacre, de sa journée du 25 août, de comment est-ce que dans sa famille on avait vécu ce drame et les années qui ont suivi. Toujours des moments bouleversants.
Ça vous dérangerait d'en
raconter.
Après, ouais, je sais pas si.
Si. Il y a pas de tabou. Je crois une des histoires qui m'a le plus touché, parce qu'aussi la personne m'a accueilli de manière extrêmement chaleureuse. C'est Morissette, donc une dame qui est décédée en 2017 et qui, le matin du massacre, voit son père partir au marché de Sainte-Maure-de-Touraine, et puis quelques dizaines de minutes plus tard, les coups de feu commencent à claquer dans le bourg, et avec sa maman, elles vont se réfugier dans un abri qui avait été construit dans une maison en face de chez eux. Ils se retrouvent à être plusieurs familles comme ça, à être dans cet abri, beaucoup d'enfants, et les Allemands commencent à jeter des grenades à l'intérieur, donc ils décident de quitter cet abri pour pas être tués, et là, les Allemands, à la sortie de l'abri, en abattent beaucoup immédiatement. Elle va réussir à s'enfuir dans les champs et en faisant demi-tour un moment pour retourner voir sa famille, elle s'aperçoit que sa mère est mourante, que son petit frère a été tué. Quel enfant de 9 ans à quel enfant de 9 ans on peut souhaiter de voir sa mère agoniser, de voir son enfant, son petit frère à côté abattu, voilà. Et là, c'est une histoire, mais des histoires comme ça, je peux vous en raconter 10, 15, 20. Tous sont tous ces récits sont plus que dramatiques. Voilà.
Combien de morts par rapport à tous les gens qui vivaient là-bas ?
Alors, on dit souvent que Maillé était une commune qui comptait plus de 600 habitants, mais c'est une commune qui est très étendue. Il y a beaucoup de hameaux avec beaucoup de gens à l'extérieur du bourg. Le bourg en tant que tel comptait entre 220 habitants. Il y a eu 124 victimes, donc on estime qu'il y a la moitié de la population du bourg qui a été massacrée, dont 50 enfants de moins de 15 ans et moins. Et en plus, on suppose même que les Allemands n'ont pas eu le temps de terminer le travail, entre guillemets, qu'ils ont été stoppés, qu'ils ont dû arrêter le massacre à peu près à la moitié du village. Donc on peut imaginer que le bilan aurait en plus pu être beaucoup plus lourd.
Pourquoi ils auraient été stoppés ?
Alors, c'est une hypothèse. Ils ont arrêté le massacre à la moitié du village. Il n'y a aucune raison, militairement, comme ça, pourquoi arrêter le massacre à la moitié du village. Mais on suppose qu'ils ont perdu du temps le matin du massacre, avant 8 heures, qu'ils ont été freinés dans leur progression vers le village en raison de la présence d'avions alliés au-dessus du village, des avions alliés qui ont survolé le bourg. Et donc les Allemands ont préféré rester à l'abri sous les arbres dans un petit bois à proximité. Et on suppose, et là sur ça on a des éléments très très récents, mais on suppose qu'aux alentours de midi il y a un signal qui a été envoyé venant d'une colline voisine pour dire aux troupes allemandes qu'il fallait évacuer le village afin de laisser la place à un bombardement d'artillerie. C'est-à-dire que le massacre, les yeux dans les yeux de la population ne suffisait pas. L'après-midi du 25 août 44, les Allemands pilonnent méticuleusement le village avec une pièce d'artillerie qui avait été installée sur une colline voisine.
Et donc voilà le rôle de la Maison du Souvenir, en fait, de retrouver toutes ces archives, recréer un peu ce qui s'est passé et en faire un devoir de mémoire, en fait.
Ah oui, on a beaucoup d'objectifs. Alors évidemment, l'objectif de commémoration, l'objectif mémoriel, d'entretenir la mémoire de ces victimes, c'est pour eux qu'on travaille avant tout. Un objectif à la fois pédagogique, scientifique, c'est-à-dire de retracer le déroulement des faits, essayer de mettre d'avoir une analyse de ces faits et de le rendre intelligible, de réussir à le transmettre de la manière le plus claire possible à nos visiteurs, en particulier aux scolaires. On a eu aujourd'hui 80 élèves et ça sera à peu près pareil demain. Donc, on a ce besoin de transcrire le récit historique, transcrire les archives en un discours intelligible pour ces publics. Et puis essayer d'en tirer très, très, de manière très prétentieuse, d'en tirer tirer quelques leçons. Je déteste ce mot, on n'est pas là pour donner des leçons, mais en tout cas en tirer quelques conclusions et analyse des processus qui peuvent amener à de tels drames, pour éviter un tant soit peu de les reproduire.
Et du coup, maintenant, vous avez combien à peu près de pièces, en quelque sorte, pas à conviction, mais de documents, d'archives?
Documents d'archives. Alors, on n'a pas de collection dans nos locaux, ou très peu. On n'est pas un centre qui a vocation de conserver des documents d'archives. Les archives départementales d'Indre-et-Loire font ça très bien. Ils ont des conditions extraordinaires, une technique d'inventaire, etc., que nous, on n'a pas. Disons par contre qu'on essaye d'aller dans maximum de fonds d'archives, numériser, photographier les documents pour se constituer notre base documentaire, ce qui permet, lorsqu'on doit aller vérifier une source, lorsqu'on doit aller vérifier un fait, lorsque l'on veut citer un document tout simplement, d'être le plus possible et le plus rigoureux possible. Et là, j'ai aucune idée en fait du nombre de documents numérisés, mais archives des archives du ministère de la Défense à Vincennes, des archives de la justice militaire au Blanc, les archives des archives départementales d'Indre-et-Loire, des archives de Cézanne de Tours. Voilà, on a essayé de collecter, d'aller visiter un maximum de centres. Il nous en reste quelques-uns à faire. On a encore beaucoup de choses à aller récupérer aux archives fédérales d'Allemagne à Berlin, des archives sur les victimes civiles des conflits contemporains à Caen. Voilà, il y a encore un gros travail d'archives et de collecte d'archives à mener dans les mois et dans les années à venir.
Pour vous, chers auditeurs, j'ai pu lire que l'association avait pris part à la réalisation de deux films de témoignages en 2004. Ils veulent en savoir un peu plus, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, alors en 2004, c'était vraiment un réveil de cette mémoire à l'occasion des 60 ans du drame de Maillé. Il se trouve en fait qu'il y a eu un changement de municipalité. Le maire précédent était un survivant, et pour lui c'était très très difficile d'engager un combat pour la mémoire de Maillé, très très difficile d'envisager. Il avait pour projet de créer un lieu de mémoire, sauf que créer un lieu de mémoire, ça demande de l'argent, ça demande des moyens humains et financiers qui sont énormes, et c'était difficile pour lui en tant que survivant de transformer cette envie d'un lieu de mémoire en somme d'argent. Voilà, s'il faut mettre 500, 600, 700 000 euros, 1 million d'euros sur la table pour monter un lieu de mémoire, c'était difficile pour lui d'aller taper du poing sur la table et de réclamer ça. Et le nouveau maire, lui, a eu pour ambition, a fait de la mémoire de Maillé une priorité en fait au début de son mandat. Et en parallèle de la création de la Maison du Souvenir, il s'est dit, il faut collecter le plus rapidement possible la parole des témoins qui étaient déjà âgés, en disant, si demain, dans 5 ans, 10 ans, des historiens veulent travailler sur le massacre de Maillé, il n'y aura pas beaucoup de témoins, il n'en restera plus beaucoup. Donc autant enregistrer immédiatement leurs paroles. Et donc il y a un film qui est basé sur l'interview d'une soixantaine, et j'ai peut-être même tendance à diminuer un peu le nombre, mais d'une soixantaine de témoins enregistrés entre 20 minutes et 1 heure pour certains. C'est une association qui s'appelle Les Deux Mémoires qui a fait ce travail. L'idée étant de constituer une base de données énorme de témoignages, de récits, sur laquelle on s'appuie encore aujourd'hui en fait. Dès qu'on a un élément, un endroit dans le village où on veut se souvenir de précisément ce qui s'est passé, on retourne chercher dans cette base de données. Et puis en parallèle, une réalisatrice de France 3 a décidé de faire un reportage, un petit documentaire sur le massacre de Maillé en vue des 60 ans pour la commémoration du massacre. Donc ça, c'est le film Le Massacre Oublié, que l'on projette encore quotidiennement à nos visiteurs. Mais même chose, basée sur du témoignage, mais là pas avec cette optique de sauvegarde et de collecte de manière la plus exhaustive possible de témoignages, vraiment dans l'optique de créer un documentaire le plus percutant possible pour résumer en une demi-heure l'histoire de Maillé. Et donc évidemment, pour la réalisation de ces documentaires, l'association a servi de plaque tournante, de coordinateur pour mettre en relation les différents réalisateurs avec les témoins qui acceptaient d'y participer.
D'autres documents d'archives ou...
D'autres films plutôt tournés ?
Film, par exemple, ou d'autres choses ?
Oui, un film important tourné en 2008-2009 par un réalisateur qui s'appelle Christophe Weber, qui est très connu hein, dans le milieu des documentaires, presque documentaires d'investigation. Vraiment un très très bon travail. Quelques défauts, mais je suis en train de râler, donc il faut bien que je dise que c'est très télé, c'est vraiment un documentaire fait pour la télé, un début, un milieu, une fin, des conclusions très fermes à la fin, mais qui par contre est très très intéressant puisqu'il s'appuie sur des recherches beaucoup plus avancées que les deux premiers films qui arrivent dans un moment où on ne sait pas grand chose sur le massacre de Maillet, et surtout un documentaire qui va partir sur les traces de la justice allemande, puisque donc j'ai dit quelques mots tout à l'heure de la justice française et de son travail d'investigation qui avait été un petit peu dans le mur. Il se trouve qu'à la suite du documentaire Maillet, le massacre oublié, réalisé en 2004, un procureur allemand a découvert l'existence du massacre de Maillet et a décidé de rouvrir une enquête. Et le réalisateur Christophe Weber a trouvé cette histoire d'une enquête menée sur un massacre oublié en France très intéressante, et il a décidé, en parallèle de la justice allemande, de mener son enquête documentaire et policière sur le massacre de Maillet pour essayer de retrouver les responsables, tout en voyant essayant de juger la motivation et l'engagement de la justice allemande dans ce travail. Voilà, est-ce qu'ils font le travail sérieusement ? Est-ce qu'il y a des blocages politiques ou autres ? Donc c'est vraiment un documentaire très percutant aussi dans son approche et qui permet d'avoir une vision, à mon sens, un peu plus complète du massacre de Maillet.
Oui, on y reviendra, c'est très intéressant. On va juste faire une pause musicale, merci Romain.
Et justement, on va partir avec une chanson qui s'appelle « Souvenir » de Ferdinand.
Thank you.
De retour dans votre émission Sortez sur Radio Campus, toujours en compagnie de Romain Taillefé, responsable de la Maison du Souvenir. Eh bien, prochaine question, Romain. Pouvez-vous nous résumer les faits du 25 août 1944 et le contexte aussi, surtout?
Alors les faits, ça peut sembler simple, hein, on pourrait se contenter de dire que les soldats allemands sont entrés dans le village et se sont mis à massacrer la population. Je vais rentrer un peu dans le détail. Donc en fait, le matin du 25 août, un vendredi matin, on a une troupe de soldats allemands, une troupe de jeunes Waffen-SS, hein, qui prend position dans un bois à proximité du village, c'est ce que je vous disais, hein, pour être à l'abri de l'aviation alliée. Et dans le même temps, on va avoir des soldats allemands qui petit à petit vont s'installer tout autour du village en sentinelle pour interdire l'accès au bourg et empêcher aussi toute personne de quitter le bourg de Maillet. Et aux alentours de 9h, eh bien le groupe de jeunes Waffen-SS va sortir des bois, commencer à marcher vers le village, et puis arriver aux premières habitations, ils vont commencer le massacre, donc maison après maison. Ils rentrent dans les bâtiments, ils font sortir les personnes à coups de grenade, hein, et puis ils abattent méticuleusement chaque habitant qu'ils croisent dans le village. Donc ils vont massacrer les hommes, les femmes, les enfants. Les bébés aussi sont systématiquement abattus, et ils massacrent aussi les animaux dans les champs. En fait, tout ce qui bouge est systématiquement massacré. Et au fur et à mesure de leur progression dans le village, ils vont aussi incendier les bâtiments. Arrivé à peu près à la moitié du bourg, comme je vous disais, il y a probablement un signal qui est donné. Les soldats vont commencer à évacuer le bourg de Maillet pour laisser place. Donc là, on est aux alentours de midi et demi, pour laisser place à 14h au bombardement de l'artillerie. Bombardement de l'artillerie qui, lui, va pas faire de différence entre les maisons déjà en flammes de la partie qui avait été traversée, de la partie nord du bourg qui, elle, semblait avoir été épargnée le matin, puisque les soldats s'étaient arrêtés avant. Alors je vous passe sur la circulation de train qui l'après-midi fait que plusieurs centaines de soldats allemands, en tout cas plusieurs dizaines, vont se promener dans le village de Maillet, puisqu'ils vont être un train va s'arrêter à proximité du village. Toujours est-il que jusqu'au lendemain matin, le village reste cerné, c'est-à-dire que ces sentinelles qui avaient pris position autour du village vont rester en place autour de Maillet, continuant à interdire l'accès au bourg, ce qui fait que les secours ne vont pas pouvoir intervenir, les gens ne vont pas pouvoir être soignés, des personnes vont mourir aussi dans l'incendie de leur maison qui ne peut pas être éteint vu que personne ne peut accéder au village. Il faut attendre le lendemain matin pour qu'enfin les premiers secours puissent rentrer dans le village, voilà, constater le drame, évacuer les quelques blessés qui n'ont pas succombé à leurs blessures, et puis surtout préparer la sépulture, voilà, rassembler les corps, fabriquer les cercueils, creuser les tombes et la fosse commune dans le cimetière en vue de l'enterrement qui aura lieu le lendemain, le 27 août 1944. Alors, le contexte à ce moment-là, on est le 25 août 1944, on est dans cette période de libération, mais faut pas oublier que Maillet était en zone occupée depuis 1940. Ça fait 4 ans que la population de Maillet côtoie des Allemands tous les jours. Il y a un camp militaire allemand à 2 km de Maillet, même pas, le camp militaire de Noître, avec 300 soldats allemands cantonnés à cet endroit. Il y a même des soldats allemands qui ont vécu chez l'habitant à Maillet au début de l'occupation. Et alors, on va pas non plus dire que c'était Club Med, que c'était tranquille. Hein. Mais entre population de Maillet et l'occupant, ça se passait quand même relativement bien pendant 4 ans. Faut avoir en tête que les soldats qui occupaient Maillet, c'était pas des nazis convaincus. Pour beaucoup, ils avaient un métier en Allemagne, ils avaient une famille en Allemagne. Ils attendaient qu'une chose, c'était retourner dans leur pays pour voir leurs enfants. Hein. On serait tous pareils. Et il va y avoir même des échanges, des relations entre population et occupants. Voilà, des Allemands qui vont donner un petit coup de main chez tel ou tel artisan ou autre. Chose normale, hein, pendant la
pendant la période d'occupation. Arrive quand même le début de l'année 44, où les Allemands démantèlent un grand réseau de résistance dans la région, et puis surtout cet été 1944, avec la multiplication des actions de résistance suite au débarquement en Normandie, avec des résistants qui ont pour consigne de ralentir au maximum la retraite allemande, de désorganiser au maximum la retraite allemande, d'où ces sabotages, d'où la multiplication des embuscades dans toute la région, pas à Maillé en particulier, et notamment une embuscade le 24 août 44, proximité du village. Et pour faire un parallèle avec le 25 août 44, donc jour de la libération de Paris, les gens savaient la libération imminente. Et on a notamment une survivante du massacre qui racontait que le jour du massacre, elle était dans un champ à proximité du village. Et lorsqu'elle a entendu les coups de feu, lorsqu'elle était avec un jeune homme, lorsqu'ils ont entendu les coups de feu venant de Maillé, ils ont cru que c'était le camp de Noître, occupé par les Allemands, qui était attaqué soit par les troupes américaines, soit par la résistance. Ils étaient persuadés que là, cette fois, c'était bon, la libération était imminente, que le soir même, les Allemands auraient été battus, seraient partis, et qu'ils pourraient célébrer... à la liberté retrouvée, et ils ont trinqué. Ils ont trinqué à la libération, et cette dame a appris le soir même qu'elle avait perdu toute sa famille, père, mère, frère.
Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant pourquoi c'était quoi le but est-ce qu'il y en avait un déjà?
Oui, alors, y avait un but. Je me bats toujours contre cette idée que les Allemands massacrent tout le monde sur leur passage, que c'était des brutes épaisses, sanguinaires. Ça correspond pas à la réalité, en fait, de l'occupation en France. Alors, il y a deux hypothèses qui ont très souvent été évoquées concernant le massacre de Maillé. D'une part, les sabotages effectués sur la ligne de chemin de fer au mois d'août 1944, sur la ligne de chemin de fer Bordeaux-Paris. Et puis, d'autre part, la fusillade de la veille du massacre, le 24 août 1944, où soi-disant un officier allemand aurait été tué par des résistants. Déjà, sur le bilan de cette fusillade la veille du massacre, à mon sens, c'est très très difficile même d'affirmer qu'il y a eu un mort. Moi personnellement, je n'y crois pas. En tout cas, j'ai pas trouvé de document d'archives. On a aucun élément factuel qui permette d'affirmer qu'il y a eu un mort. Peut-être, voilà, on sait pas. Par contre, des blessés, très certainement. Ça, on sait qu'il y a des gens qui ont été soignés, des soldats allemands grièvement blessés, qui ont été soignés à Sainte-Maure-de-Touraine. Maintenant, des sabotages sur les lignes de chemin de fer, il y en a partout en France à ce moment-là. J'ai fait un tour aux archives de la SNCF au Mans au mois de juillet dernier. Le nombre de sabotages sur les différents axes ferroviaires dans le Grand Ouest, c'est colossal. Et des massacres, vous en avez pas partout. Ah, si c'était une réponse au sabotage, pourquoi à Maillé se mettent à tuer des femmes et des enfants, alors que c'est à certains endroits où il n'y a rien, certains endroits où il y a uniquement des hommes qui vont être pendus, fusillés, déportés. Voilà, c'est tragique, mais il n'y a pas de femmes et d'enfants. Et les Allemands font la différence. Tuer des femmes et des enfants, pour eux, c'est pas quelque chose qui est naturel par rapport à des représailles à l'encontre d'hommes en âge de porter les armes. À mon sens, et donc là, on est sur des théorie personnelle qui mériterait d'être détaillée, retravaillée, étayée. Il faut plutôt essayer de regarder dans la situation dans son ensemble, et on s'aperçoit vite que à l'échelle de la France entière, à une seule exception près, mais à l'échelle de la France entière, lorsqu'il y a un massacre de population civile, hommes, femmes, enfants, vous avez toujours les mêmes profils d'officiers, toujours des officiers supérieurs qui ont été sur le front de l'Est. Sur le front de l'Est, des massacres de civils, c'est quotidien. Voilà, c'est des officiers qui ont déjà vu des massacres d'hommes, de femmes, d'enfants. Donc ils ont intégré cette possibilité-là. Voilà, si jamais on a un gros problème, bah on fera comme à l'Est. On massacrera des femmes et des enfants. Ils ont intériorisé cette violence. Ils ont radicalisé en fait leur violence au point de dire, ok, si on a un problème, on pourra appliquer les mêmes règles que là-bas. Ensuite, vous avez des officiers qui ont adhéré très tôt au parti nazi, souvent avant 29, en tout cas avant 33, des gens qui n'ont pas adhéré par opportunisme, et donc c'est des convaincus du régime. Et si jamais ils sentent le régime friable, et que pour eux le massacre de civils c'est le moyen de maintenir une chance au Reich de se maintenir face aux alliés, eh bien ils vont être jusqu'au boutistes. Et puis vous avez besoin aussi d'unités qui vont être des unités jeunes, souvent des unités Waffen-SS ou Panzergrenadier, unités fanatiques, des unités aussi qui vont être capables d'exécuter n'importe quel ordre pour montrer leur supériorité. C'est-à-dire que là où le soldat normal de la Wehrmacht, bah, il va avoir, je vais parler comme eux, hein, mais il va avoir le ventre qui se tord au moment de tuer une femme ou un enfant, voilà, et être faible, suivant leur langage, bien ces soldats-là vont se dire, il faut être capable de faire abstraction de notre émotion, de notre conscience, et voilà, d'être dur. Il faut que des soldats soient comme nous, capables d'aller jusqu'au bout pour donner une chance au Reich de se maintenir. Donc voilà, quand on a cette chaîne hiérarchique avec ce type d'officier, d'unité, on a un baril de poudre. Et ensuite, ils ont besoin de ce contexte de l'été 1944 où ça y est de tout part, cette impression qu'ils sont en train de perdre leur autorité, de perdre leur contrôle sur le territoire. Eh bien, ils vont rétablir leur autorité par le massacre de populations civiles, qui est une manière d'affirmer leur... De donner un avertissement, en fait, à la région en disant, voilà... jusque maintenant, jusqu'à 44, on s'est bien comporté, quoique, mais en tout cas dans leur langage c'est ça, et de dire maintenant les règles ont changé, si jamais on est vraiment ennuyé par une région, eh bien voilà le prix à payer, et ils font quelques démonstrations. Le meilleur exemple, c'est Oradour-sur-Glane, où la Das Reich montre maintenant la nouvelle règle, qui sera un massacre de population civile, hommes, femmes, enfants, si la Corrèze, le Limousin continue à poser problème avec entre autres les maquis de Guingouin. Eh bien, à Maillé, 25 août, cette unité, Fédersatzbataillon de la 17e Goetz von Berlichingen, jeune bataillon SS, démontre qu'ils sont capables de multiplier les massacres si demain la résistance continue ses actions. Ils tuent des innocents sciemment pour envoyer un message. Ils appliquent la politique de terreur. Voilà, tuer des innocents pour faire peur, ça, c'est du terrorisme en fait.
Vous pouvez nous parler, revenir en tout cas un petit peu sur les responsabilités et puis les poursuites pénales du côté français et allemand. Comment...
Alors côté français, je vous ai dit que les enquêtes avaient été bâclé, en tout cas mal mené. L'unité n'a jamais été, en tout cas les Français ne sont jamais parvenus à identifier l'unité responsable du massacre. Je vous ai parlé du Fédersatzbataillon SS, voilà, c'est quelque chose qui est totalement oublié par la justice française, qui ne parvenant pas à identifier l'unité, va évoquer des troupes hétéroclites, comme s'il y avait eu un ramassis de soldats en retraite qui avait été rassemblé par un sous-officier pour faire ce massacre. Et donc justement, un des seuls soldats qui va être identifié formellement et même retrouvé en Allemagne, puisqu'interrogé, ce sous-lieutenant Schlüter, lui va être jugé et condamné à mort par contumace par le tribunal de Bordeaux en 52. Mais vu qu'il n'a jamais été arrêté, en fait, au lendemain de son premier interrogatoire, il a réussi à s'enfuir et à disparaître en Allemagne, eh bien, il ne va pas purger sa peine. Donc on a cette condamnation à mort qui n'aboutit ensuite à rien du tout. Et donc, à partir des du milieu des années 2000, suite au documentaire, comme je vous disais tout à l'heure, on a un procureur allemand qui va décider de rouvrir une enquête. Donc, geste extrêmement courageux. Voilà, 70 ans après les faits, un Allemand qui vient dire à la population de Maillé, bah voilà, moi je vais enquêter sur cette histoire, je vais essayer d'identifier les responsables. Il a fait un travail colossal, puisque... Il a remis son travail et le travail aussi d'un historien allemand ont permis de remettre le focus sur cette unité SS basée à Châtellerault, ce Fédersatzbataillon, qui avait été totalement oublié. Et maintenant, à 99%, on peut dire que c'est eux. Malheureusement, entre la justice qui a besoin de 100 ou de 101% et l'historien qui peut se contenter d'un faisceau de présomption, il y a une différence. Donc ce procureur allemand a permis d'identifier, de remettre l'attention sur ce bataillon, mais malheureusement l'enquête a été classée sans suite il y a quelques mois, hein, puisqu'on a eu le classement définitif, la notification du classement définitif à la fin de l'année 2018, hein, nous informant que faute d'aveu et faute de preuves, hein, il n'était pas possible de juger aujourd'hui un soldat allemand membre de cette unité. Quand on a en tête que les soldats de ce bataillon avaient... c'est toujours très jeune un soldat dans une armée, mais là on en a qu'on 16 ans, en 44, potentiellement il y en a qui sont encore en vie aujourd'hui, qui pourraient être jugés. Surtout l'idée n'est pas qu'ils soient, il faut qu'ils soient condamnés, reconnus coupables pour qu'on puisse dire que ce massacre a existé. C'est important qu'il y ait une reconnaissance de la justice, mais c'est surtout répondre à des questions qui nous permettraient nous d'avancer dans la recherche.
Et concernant l'entraide et la reconstruction de Maillé, ça s'est passé comment ?
Alors immédiatement, une solidarité impressionnante de la part des communes, des habitants des communes voisines. Faut imaginer, j'en parlais tout à l'heure avec des élèves, un village d'où s'élève une colonne de fumée impressionnante pendant toute une journée, puis rougeoyant la nuit. Enfin, les communes voisines sont immédiatement au courant qu'il se passe quelque chose de terrible à Maillé, et donc beaucoup d'hommes vont attendre que le cordon de sécurité, que ces sentinelles positionnées par les Allemands autour du village s'en aillent pour accéder au bourg et voir... s'ils peuvent rendre service, quoi, c'est voir s'ils peuvent faire quelque chose pour aider la population de Maillé. Donc la solidarité, ça va être d'éteindre les incendies, de d'écrouler les morceaux de maison menaçant de s'effondrer pour éviter qu'il y ait de nouveaux blessés, fabriquer les 124 cercueils, creuser les fosses communes, donner aussi du linge pour aider à l'inhumation, voilà, enfin des listes comme ça, je pourrais donner des biens de première nécessité pour que les quelques survivants qui ont tout perdu puissent reprendre une vie, et alors avec un nombre de guillemets impressionnant, normal, en tout cas reprendre une vie quotidienne dans les jours qui ont suivi le drame, héberger quelques familles aussi. Voilà, vraiment une solidarité importante immédiatement après le drame. Je vais quand même attirer l'attention sur deux éléments de solidarité tout particuliers et surprenants. Une souscription faite par des villes africaines dans le cadre de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Une souscription organisée au départ pour aider à la reconstruction d'un village détruit. Des villes africaines qui se cotisent puisqu'elles n'ont pas connu les combats sur leur sol. Et le bénéfice de cette souscription va être accordé à Maillé et va permettre de reconstruire l'école très rapidement. Dès 48, les écoliers de Maillé peuvent faire leur rentrée dans une école neuve. Et aussi, un élément qui commence à être un petit peu connu pour Maillé, c'est le parrainage d'un couple de milliardaires américains qui découvrent par hasard l'histoire de Maillé. Et qui vous, ces deux américains philanthropes, francophiles, vont décider de prendre en charge la population de Maillé et vont leur offrir les biens de première nécessité. C'est-à-dire que c'est l'État qui va reconstruire les maisons, comme partout. Mais le couple d'Américains va les meubler, il va offrir les draps, la vaisselle, les chaussures, les vêtements, tout ce dont on a besoin au quotidien, c'est ce couple d'Américains qui va le fournir à la population de Maillé en le faisant venir directement des États-Unis, puisqu'à ce moment-là, en France, on ne peut plus rien trouver. Donc c'est vraiment une... Quand on en parle aux survivants de Maillé, ils ont encore les yeux qui brillent. Ce parrainage, tellement ça a été un rayon de soleil dans une période d'une noirceur infinie. Mmh.
Merci Romain, on fait une courte pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Et on va écouter Breakbot avec My Toy.
My toy, I wanna mess with you. I can hide it.
de retour dans Sortez pour la dernière partie de cette émission consacrée à la maison du souvenir à Maillé. Est-ce qu'il y a eu d'autres massacres de cette envergure en France à l'été 44?
Alors oui, l'immense majorité des massacres commis sur le sol français ont lieu durant cet été 44. Alors évidemment, je vais citer le plus gros massacre commis par l'armée allemande, en tout cas par la Waffen-SS, la division Das Reich, qui est celui d'Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944, avec 642 victimes. Mais Oradour, en fait, c'est le point d'orgue de cette vaste opération de rétablissement de l'autorité menée par la Das Reich à partir de la fin du mois de mai 1944, où ils vont multiplier les massacres, comme ça, pêle-mêle, Roufillac, évidemment Tulle, avec 99 hommes, cette fois, pendus. Et donc le 10 juin... Oradour, on va avoir un massacre très peu connu à côté de Troyes, massacre d'Aude-Buchère, on a le massacre de Gouesnou en Bretagne, qui est l'exception, je vous parlais tout à l'heure d'une exception, on n'a pas cette chaîne hiérarchique, c'est le massacre de Gouesnou, les différentes communes du Vercors, avec notamment Vassieux en Vercors, voilà, c'est Maillé est le deuxième plus gros massacre, mais il faut pas oublier ces massacres même plus ou moins de même envergure, avec à chaque fois 70-80 victimes perpétrées par les troupes allemandes, majoritairement Waffen-SS, à l'été 44. En France, donc, je vous ai dit le massacre, on va dire une quinzaine. Maillé reste un des plus gros massacres d'Europe de l'Ouest. On a quelques massacres en Italie, je pense notamment à Marzabotto, à Sant'Anna di Stazzema, quelques massacres aux Pays-Bas. Par contre, il faut surtout pas oublier que à l'Est de l'Europe, lorsque les Allemands attaquent la Pologne, l'URSS, des massacres comme celui de Maillé, c'est allez, toutes les semaines, pour pas dire quotidien. C'est 5000 oradours sur Glane en quelques mois. Et là-bas, on est vraiment sur des massacres, et à chaque fois, plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de personnes en l'espace de quelques jours. On est sur une toute autre guerre.
Comment expliquez-vous que, par exemple, Oradour soit beaucoup plus connu, en quelque sorte, que Maillé ?
Ah, il y a beaucoup de facteurs. Alors évidemment, la préservation des ruines pour Oradour, qui en fait le symbole de la barbarie nazie à l'échelle de la France, et un des symboles mondial de la barbarie nazie. Alors certains diront la date, le massacre de Maillé, jour de la libération de Paris. J'y crois de moins en moins. Mais par contre, je pense vraiment qu'il y a un rôle du politique, en fait. Pour faire connaître un massacre, il faut qu'il y ait des gens qui portent la mémoire du massacre. Hein. Et pour Oradour, ça a été les gens de Limoges, qui immédiatement, le Parti communiste du Limousin et les hommes politiques de Limoges, qui immédiatement ont pris en charge, ont porté la mémoire d'Oradour pour la faire connaître au niveau national, ont pris conscience de l'ampleur de ce qui s'était passé, que c'était pas la guerre, quoi, ce qui s'était passé à Oradour. Et donc, ils ont dit, il faut pas oublier cet événement. D'où la préservation des ruines, qui est un peu la suite logique de cette prise de conscience. Et ensuite, la volonté des différents politiques de faire connaître et reconnaître systématiquement le massacre d'Oradour-sur-Glane. Maillé, alors oui, il va y avoir la solidarité matérielle, la reconstruction du village, mais je crois que personne localement a pris conscience de l'ampleur de ce qui s'était passé, en tout cas au niveau politique. À Tours, à Poitiers, les gens ne réalisent pas l'ampleur de ce qui s'est passé à Maillé, ils ne réalisent pas que c'est un événement qui, à l'échelle nationale, même à l'échelle de toute l'Europe de l'Ouest, mériterait d'être connu. Et rapidement, Maillé devient une énième exaction. Voilà, on nous dit tout le temps, ah oui, chez nous, il y a eu pareil, il y a eu 2-3 résistants fusillés dans les bois. Chez nous, ça a failli. On nous dit tout le temps, Maillé, oui, il s'est passé quelque chose, mais bon, si c'était vraiment grave, ce serait connu. Encore une fois, c'est un des plus gros massacres d'Europe de l'Ouest, le deuxième plus gros massacre en France. Mais personne n'avait vraiment pris au sérieux, j'ai l'impression, cette histoire. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on est presque obligé de se battre pour légitimer d'exister, de faire vivre cette mémoire en disant « Oui, enfin, vous n'allez pas nous bassiner pendant des... » Mais non, c'est que c'est un événement dont, à mon sens, on n'a pas pris conscience de l'importance.
Bien, d'où la maison du souvenir, alors ?
Ouais, ça fait partie de nos missions principales, faire connaître, faire reconnaître le drame de Maillé, en améliorer la connaissance aussi, évidemment. Après, notre vision, je crois que au sein de l'équipe, au sein de l'association, on est beaucoup à partager ce discours, c'est cresté dans, avec beaucoup de guillemets, vous me pardonnerez l'écart de langage, mais on n'est pas là dans la contemplation des ruines et dans les pleurs incessants sur les 124 victimes de Maillé. Elles sont au cœur de notre lieu, de cette, elles sont au cœur de cette histoire, c'est notre préoccupation principale. Mais je crois qu'il faut, je disais tout à l'heure, en tirer des leçons, il faut essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé. Quand on parle massacre de Maillé, on parle de jeunes fanatiques endoctrinés, on parle d'un processus qui mène à la violence de masse, on parle évidemment de, du fonctionnement du régime nazi, de cette négation absolue de l'homme. Tous ces éléments-là ont une résonance contemporaine qui est saisissante. Et notre travail après entre autres du public scolaire, c'est de se dire, voilà, on a cette histoire, on vient leur apprendre, mais du coup, est-ce qu'on peut pas en faire un outil pour essayer de provoquer chez les jeunes une prise de conscience, de les faire réfléchir sur des choses qui vont plus loin et qui du coup les touchent beaucoup plus directement. Parler aux jeunes, les collégiens que j'ai eu tout à l'heure, leur parler de ce qui s'est passé il y a 75 ans, c'est tellement loin pour eux, ça les intéresse pas. Mais si tout d'un coup on leur parle, on leur dit que les soldats qui ont fait le massacre de Maillé, un des éléments déterminants dans le fait qu'ils contribuent à ce massacre, c'est l'effet de groupe. Mais l'effet de groupe, ça leur parle tous les jours. Ils savent que des fois ils se laissent emmener par les copains à faire des bêtises. Quand on leur parle esprit critique, endoctrinement, radicalisation, en plus on s'amuse avec nos jeunes, on essaie de les provoquer un peu sur ces questions pour leur montrer à quel point ils sont vulnérables. Bah, tout de suite, ça prend une résonance beaucoup plus contemporaine. Et on voit les regards qui changent, on a une écoute tout à fait différente. Tout d'un coup, on leur parle plus d'il y a 70 ans, mais on leur parle de quelque chose qui est terriblement contemporain.
Oui, presque ces comportements humains sont aussi, peuvent être les mêmes de nos jours en quelque sorte.
C'est exactement ça. Maillé, c'est Maillé 1944, c'est le drame, un drame de la Seconde Guerre mondiale. C'est presque un décor, c'est un décor dans un contexte particulier. Mais aujourd'hui, je peux vous mettre la même chose, il y a quelques mois, la même chose à Alep. Je dis souvent, j'étais bouleversé par certains témoignages du Bataclan, où j'entendais, s'ils n'avaient pas dit Bataclan 13 novembre, j'entendais les survivants de Maillé. Cette sidération au moment du massacre, cette détermination dans le regard du bourreau.
L'incompréhension surtout de ce qui se passe au moment.
Oui, ces gens qui passent plusieurs secondes sidérés, il y a des gens qui sont en train de leur tirer dessus, mais ils sont là à se dire c'est dans le spectacle, c'est dans le show, c'est des pétards. Mais les gens de Maillé sont pareils, ils sont sidérés par ce qu'ils vivent. Mais quand on fait ce parallèle entre Maillé et des choses contemporaines, nos jeunes tout d'un coup ils comprennent que cette histoire a des résonances contemporaines. Et puis, on travaille, ça fait partie de nos prochaines missions, essayer de travailler sur les fake news, sur les théories du complot, parce que le soldat allemand de 17 ans qui abat les habitants de Maillé, il est l'aboutissement d'un processus qui commence par un système entier basé sur ce complotisme, ce fake news qui font que l'allemand de 44, il y a une dimension eschatologique si je ne tue pas, on va me tuer. Parce que c'est ce qu'on lui a dit aux soldats allemands, que si jamais il ne tuait pas la population de Maillé, s'il ne tuait pas le juif, demain c'est lui qui serait abattu. Voilà.
Merci Romain. Est-ce que vous voulez terminer en nous rappelant un petit peu les infos pratiques, en quelque sorte, de la Maison du Souvenir?
Alors oui, évidemment. donc la Maison du Souvenir, on est ouvert tous les jours de la semaine de 10h30 à 13h et de 14h à 18h. On ouvrira le week-end, donc les samedis de 10h30 à 13h, de 14h à 18h. Et le dimanche de 14h à 18h, on ferme le dimanche matin. À partir du mois d'avril, à partir du premier week-end d'avril, on ouvrira pour une période qui ira jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc évidemment, on retrace le drame de Maillé à travers une salle d'exposition, il y a à peu près 200 mètres carrés d'exposition, et la projection d'un film de témoignage que j'évoquais tout à l'heure. On a une salle d'exposition temporaire, donc actuellement une exposition qui mêle témoignages et portraits de survivants, une exposition bouleversante qui est déjà présentée dans nos locaux depuis un moment, mais qui est tellement efficace que jusqu'à nouvel ordre, ce sera celle qui sera présentée. On aura à partir de, je pense, de l'été, une exposition sur la reconstruction du village. Je crois qu'on était un peu lassé d'avoir des questions des visiteurs sur pourquoi est-ce qu'à Maillé on a reconstruit à la différence d'Orado. Là, on a voulu faire un pas de côté en disant mais le pourquoi est intéressant, mais ce qui est surtout intéressant, c'est comment. Comment on reconstruit après un tel drame? Comment on reconstruit un village? Donc on a vraiment voulu expliquer, faire le récit de cette reconstruction, et notamment ces délires d'architecte urbaniste qui voulait faire de Maillé le village modèle par excellence. Et voilà, je peux que encourager les visiteurs, si j'ai réussi en quelques minutes à leur donner envie de venir découvrir, de venir en savoir plus sur cette histoire, je peux qu'encourager les visiteurs à venir, enfin vos auditeurs à venir nous voir, à nous solliciter. Je crois qu'on a envie de répondre aux questions des gens. Là, je pourrais pas vous parler de Maillé encore des heures, parce que c'est une histoire qui est terrible, mais qui suscite beaucoup de questions et sur laquelle, en fait, nous, notre but, c'est de la partager, de la transmettre pour que chacun des visiteurs qui passe notre porte devienne ensuite un ambassadeur qui a envie de faire connaître et reconnaître cette histoire.
Merci Romain.
Merci à vous.
Tu me regardes, mais il n'y a pas le temps pour l'agenda, on aura le temps d'une dernière musique.
Ah bon?
Bon, non, bah, tant mieux. Mais on a quand même le temps de tout rappeler, c'est-à-dire que cette émission sera en rediffusion demain matin de 6h à 7h, que le podcast de cette émission sera disponible ce soir sur toutes les plateformes de la radio, le site web www.radiocampustour.com, le Facebook Radio Campus Tour. Dans quelques minutes, donc juste après la musique, 18h le flash RFI, 18h15 le Ghetto Blaster. Et puis on se dit à demain, du coup, et puis au revoir à tout le monde et à tout le monde ici.
Merci à vous.
Au revoir.
Radio Campus Tours 99.5
et sur internet radiocampustours.com.